Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Ne ratez plus rien.
Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Accepteriez-vous de boire de l'eau qui vient du lac? Eh non, parce que c'est plein de maladies puis plein de bactéries. Et vous savez que vous pouvez avoir de l'eau filtrée qui vous rendra pas malade. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même réflexion au sujet de l'air qu'on respire? C'est plein de particules de virus, plein de particules chimiques qui nous causent des cancers aussi. Rouyn-Noranda, Limoilou, vous en avez entendu parler dans les médias. Mais c'est le temps que ce soit un dossier prioritaire. Filtrer l'air qu'on respire, mieux ventiler, mieux aérer pour notre santé, pour la santé de tout le monde.
Alors, cet appel à s'occuper de la qualité de l'air que vous entendez sur fond de Final Countdown, pour ceux qui avaient à peu près le même âge que moi dans les années 80, vient de Joseph Daïn, qui est médecin intensiviste au CSS de Laval. Et on en discute avec lui. Salut, Joseph.
Bonjour.
Bon, et puis, on va se tutoyer dans l'entrevue parce que les faut que les gens sachent, Joseph et moi, on fait partie des gens avec qui j'échange, notamment pour comprendre ce qui se passe avec la pandémie, mais aussi pour d'autres choses comme ça. Écoute, tu dis, chaque jour d'ici les élections, tu as commencé la semaine passée, tu as dit que tu vas tweeter sur l'importance de la qualité de l'air qu'on respire et que tu vas le faire d'ici à ce que tous les partis agissent. D'abord, pourquoi tu as décidé de faire ça?
C'est certainement dans un but de sensibilisation puis de mobilisation sur un enjeu qui m'interpelle puis je pense qu'il passe sous le radar parce que comme société on a tellement d'enjeux avec lesquels affronter, même chose au niveau politique, mais celui-ci m'a interpellé, je pense, comme professionnel de la santé, mais aussi comme papa, parce que l'air qui est tout autour de nous, quand on réalise c'est un dénominateur commun de plusieurs enjeux plus globaux comme la pollution atmosphérique, les changements climatiques, les particules infectieuses. Moi, je suis médecin aux soins intensifs, comme tu l'as dit, donc c'est tout ce qui est maladies transmissibles par l'air comme la COVID, puis l'importance de la ventilation, ben effectivement, ça vient me chercher. C'est une des raisons pour laquelle on est encore en pandémie. Le manque de ventilation efficace et de qualité dans les espaces clos. Donc, d'avoir cette réflexion-là, de dire, ben coudonc, c'est un des dénominateurs communs de tout ça, c'est vraiment juste l'air qu'on respire, puis ça, on le respire tout le temps. Donc, s'il n'y a pas de bonne qualité, ça va avoir des impacts sur notre santé. C'est juste une réflexion que j'ai eue, puis sans être un expert là-dedans, de dire, ben, est-ce que c'est possible de sensibiliser et mobiliser les gens autour de cet enjeu-là? Parce que améliorer la qualité de l'air, si on est capable de faire ça, ça veut dire qu'on a accompli plein d'autres choses qui seraient bénéfiques pour notre planète puis pour notre santé, comme, ben, justement, diminuer les changements climatiques, diminuer la pollution, améliorer l'environnement, améliorer la ventilation pour qu'il y ait moins de maladies, pour qu'il y ait moins de cancer, pour d'autres particules toxiques et chimiques. Donc, je me suis dit, s'il y a une chose qu'on est capable de tout suivre, puis de se dire, si ça s'améliore, il y a beaucoup d'autres affaires autour très importantes qui vont être améliorées, ben, c'est la qualité de l'air, puis d'essayer de mobiliser les gens autour de cet enjeu-là, qui devrait être un enjeu politique, selon moi.
Mais c'est drôle, parce que tu dis, sans être un expert là-dedans, t'es quand même un expert dans des conditions de santé assez graves que tu vois traiter chaque jour. Fait que j'imagine ça doit te sensibiliser quand même pas mal à ça. Tu te dis que tu le ferais d'ici à ce que tous les partis agissent. Est-ce que tu as eu de la réaction de la part de partis politiques jusqu'à maintenant?
Bon, on est au jour 6 aujourd'hui. J'ai commencé le 3 août en me disant ben, c'est deux mois avant le 3 octobre. Et puis, dès le premier jour, il y a eu... La députée Marois Risky du Parti libéral du Québec qui a répondu à mon tweet comme quoi il y avait un projet de loi qui avait été écrit par le Parti libéral en lien avec la ventilation dans les écoles. Donc ça, c'est ce que je considère être une première réponse. Maintenant, comme je te le disais un petit peu en guise d'introduction puis d'explication, pour moi, la qualité de l'air, ça va au-delà de la ventilation dans les écoles. La ventilation dans les écoles, c'est certes important, mais c'est comme un strict minimum en temps de pandémie. C'est un non-sens qu'on ne l'ait pas déjà atteint, mais je ne me satisferai pas et je ne pense pas que comme société, on devrait se satisfaire simplement d'avoir une meilleure ventilation dans les écoles, alors que les problèmes sont beaucoup plus grands et sont à bien d'autres endroits. Mais c'est la seule réponse que j'ai eue pour le moment. Et je le comprends. Je pense que ça va. Les partis politiques ont bien d'autres choses d'ici l'élection sur leur agenda. Mais je crois sincèrement et fondamentalement que ça pourrait être quelque chose de très bénéfique qui engagerait un dialogue avec la société, qui nous mobiliserait tous, là. En fait, je pense qu'on peut pas être contre respirer du meilleur air.
Ben non, mais c'est ça, parce que tu sais, au 19e siècle, on a filtré l'eau parce qu'on sait qu'il y avait des problèmes, notamment la tuberculose. Il y a des épidémies au Québec à ce moment-là. Là, c'est le troisième été de la pandémie. On sait que la vaccination, ça aide, mais qu'on court un petit peu toujours après le virus. La physique, elle, ça peut vraiment nous aider. Pourquoi c'est si difficile, selon toi, de mettre ça dans... Tu sais, notre porte de sortie, c'est probablement ça, parce que dehors, on l'attrape pas, ou en tout cas très, très, très peu. Pourquoi c'est si dur encore après même trois étés de pandémie?
Ben, je pense que ça fait appel à des théories de gestion du changement. Là, c'est le statu quo est une force assez immuable. C'est assez difficile de faire changer les choses. Puis, veux pas tout revoir, tout ce qui est code du bâtiment ou des normes de ventilation dans des édifices, les mettre à niveau, ben, ça peut avoir l'air une tâche titanesque. Mais ça n'empêche pas le fait que si c'est la bonne chose à faire, ben on devrait commencer à la faire. Puis moi, j'ai un fellow en amélioration de la qualité. On dit toujours, la façon de manger un éléphant, ben c'est morceau par morceau. Fait que si tu décides pas de commencer, tu finiras jamais. Fait que c'est un petit peu l'approche que moi j'utilise quand il y a des changements profonds qui nécessitent d'être mis de l'avant. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais faut d'abord que ça commence avec une volonté, puis ensuite les choses peuvent suivre. Mais je pense que c'est peut-être un peu ça qui fait peur. Mais tu as donné l'exemple de l'amélioration de la qualité de l'eau dans un autre siècle. Mais à un moment donné, c'est parce que là, quand tu vois qu'il y a effectivement des maladies qui sont propagées, expliquées uniquement que par l'eau contaminée, parce que avant c'était utilisé pour tout simplement mettre des sels. Les gens littéralement faisaient leurs besoins dans l'eau potable. À un moment donné, quand tu réalises que ben il y a des coliformes qui sont transmises sur les matières fécales, c'est ben peut-être qu'on devrait pas boire cette eau-là avant de l'avoir filtrée. Puis un réseau d'aqueducs a été mis en place initialement juste au Royaume-Uni, à Londres, je crois, puis ensuite partout dans le monde. Donc la réalité, c'est maintenant c'est devenu le standard. Ben ça devrait être un petit peu une réflexion similaire à l'air. On a pris pour acquis, je crois, que l'air était toujours propre, que les arbres faisaient la job de filtrer l'air qu'on restait. Mais la réalité, c'est que l'air devient de plus en plus saturé par beaucoup de particules chimiques et de CO2 à cause, effectivement, de toute l'industrialisation qui continue. Puis il y a de moins en moins d'arbres parce qu'on déforeste puis on coupe. Fait que pour ça, je dis toujours que ça revient à un dénominateur commun de plus grands enjeux, parce que ça aussi, ça serait bien qu'on arrête de déforester puis qu'on plante des arbres. Fait que c'est un petit peu tout est rejoint là-dedans, puis de dire, ben oui, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux de faire la comparaison avec l'eau d'il y a deux siècles, mais en même temps, pas tant, il y a quand même beaucoup de comparables, puis peut-être que ça devrait être notre enjeu moderne pour assurer notre santé, mais aussi la survie de la planète pour nos enfants. C'est là que c'est venu interpeller aussi mon petit côté papa.
En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant parce que chaque jour, c'est un tweet qui rajoute des éléments d'information, des vidéos aussi. J'ai vu que tu t'étais servi de TikTok. Fait que ça, c'est intéressant. C'est éducatif aussi. J'ai appris, la pollution atmosphérique tue 15 000 personnes chaque année au pays. 15 000. Ça, c'est la pollution. Ça compte même pas les maladies transmissibles là, comme la COVID présentement. Et un mot en passant, Joseph, puisque justement, sur ton fil Twitter, t'as adressé aussi, il y a des réactions présentement. Il y a une espèce de débat dans la communauté médicale sur l'impact de la COVID sur le système de santé. Il y a le docteur Carl Weiss de l'hôpital général juif, pour ne pas le nommer, qui a dit que, bon, vous voyez, les hôpitaux fonctionnent à plein régime et ne sont pas vraiment débordés. Il y a quelques médecins, dont toi, qui ont réagi à ça en disant, oups, une minute, c'est peut-être pas ça qui se passe. Comment ça se passe chez vous, là? Toi, tu travailles à la Cité de la Santé à Laval, là, comment tu vois ça?
Ben j'oserais dire un vieux débat, tu sais, parce que les gens l'ont retourné comme étant, ben non, mais Dr. Weiss essaie de faire la distinction entre avec la COVID puis pour la COVID. Ça fait longtemps que pour moi c'est un débat qui est pas si important que ça, dans la mesure où pour l'hôpital, chaque patient qui a la COVID, peu importe la raison pour laquelle il l'a attrapé, ça impose ensuite ses conséquences logistiques sur l'hôpital comme tel. Ça a rapport avec ça s'ensuit des dépistages pour les usagers, ça s'ensuit des décisions thérapeutiques. Est-ce qu'il faut changer des médicaments? Est-ce qu'il va développer une forme sévère parce qu'il a attrapé la COVID de façon nosocomiale, si c'est dans un cas d'éclosion, s'il arrive coïncidentalement avec ça pour une autre cause? Ben, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est une coïncidence qui se présente avec une exacerbation de son insuffisance cardiaque ou une hémorragie digestive, ou est-ce que dans le fond, il y a des choses qu'on connaît pas sur ce virus-là qui font en sorte que ça exacerbe une condition ou ça la précipite? Je suis pas en train de dire que j'ai la réponse, je suis juste en train de dire que ce sont des questions qui se posent, et ce sont certainement des défis logistiques concrets dans les hôpitaux. Puis ça n'a pas changé depuis le début de la pandémie. Fait que oui, on essaie de s'adapter, oui, on essaie de s'améliorer, mais de là à dire que ça va super bien dans les hôpitaux, ben, je pense que on pourrait faire un sondage rapidement à plein de médecins, gestionnaires professionnels de la santé, puis tout le monde vous répondrait que les gens sont épuisés. Puis je l'ai dit dans mon fil Twitter, il y a même des gens qui quittent, là, des gens qui devancent leur retraite ou tout simplement qui changent de carrière parce que c'est tout simplement plus plaisant de toujours travailler avec cette source de stress-là qui est toutes les débats concernant la COVID et les impacts que ça a sur la gestion logistique quotidienne d'un hôpital. Puis il y a un gros niveau de désengagement puis de démobilisation, puis de minimiser un petit peu les conséquences de la COVID sur les gens qui ont souffert de tout ça, ceux qui y travaillent, mais c'est aussi qui ont perdu des êtres chers, ou ceux qui souffrent de la COVID longue, qui a aussi un impact qui n'a pas été mentionné dans les échanges qu'on a eus, dans l'article de la presse. Mais ce sont des conséquences réelles qui ne devraient pas prendre toute la place de la conversation. Il faut avoir effectivement un discours nuancé puis être capable de présenter les deux côtés. Mais je pense quand même que de dire que tout va bien, puis que c'est comme si on était dans un monde pré-pandémique ou qu'on est super bien adapté maintenant, puis qu'on gère ça comme on gère n'importe quoi d'autre dans le réseau de la santé, ben on n'en est pas là non plus. Il y a un petit pas à franchir, puis je pensais que ça valait la peine un petit peu d'apporter un point de vue différent à ces déclarations.
Ben écoute, c'est fait, c'est noté, puis on comprend que quand le virus circule moins, votre vie est plus simple, puis on sait tous. Joseph Dayen, intensiviste au 6 de Laval, merci beaucoup.
Hey, ça fait plaisir, merci de l'invitation.
Et moi, je veux juste continuer là-dessus, juste pour donner deux chiffres rapidement. Là, notre niveau que le système de santé fournit pas avant la pandémie, là, c'est-à-dire notre 100%, là, ben on est en dessous présentement. Les hôpitaux, ce printemps, ils fonctionnaient à 85-88%. Ça veut dire qu'il y a 12-15% d'opérations là, on était en dessous de notre capacité. Puis présentement, avec les vacances, le manque de personnel, on est à 65%. Fait qu'on n'est pas à pleine capacité. Puis ça, ben c'est quoi? C'est l'impact de la COVID.